Bonjour mes frères et sœurs. Eh bien, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 12 et verset 31. C'est Jésus qui nous parle du deuxième commandement. Le premier commandement étant « Tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton entendement, de toute ta force. » Et le second commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de mitzvah plus grande que celle-là. Alors là, je suis en train de vous lire dans une Bible que mes frères Stéphane Royer et Dominique Boisset m'ont offerte, qui s'appelle « La Bible juive complète, une nouvelle version de la Bible » par David H. Stern. Je vous avais déjà parlé du Nouveau Testament qui était sorti, mais maintenant la Bible entière est sortie. Donc je vous la recommande, vous pouvez la trouver aux éditions Emmet Édition. E-M-E-T-H édition, voilà. Bien, j'ai fêté mes 68 ans le 5 février de cette année, et à cet âge-là, vous savez, ça fait longtemps que je me pose plus la question « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» J'ai déjà fait le plus gros, et aujourd'hui, je prétends pas savoir exactement qui je suis, non, bien sûr que non, mais j'ai quand même pas mal de réponses à ce sujet. Dernièrement, un frère me parlait au téléphone de ses fils qui avaient été jeter un œil sur mon site, et ils ont dit à leur père que « Ouais, ton Michel Janton est un narcissique ». C'est pas la première fois que quelqu'un dit ça de moi, et ça m'amuse toujours beaucoup parce que je sais... Bon, excusez-moi, pardon, mais je lis pas mal, et je sais que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment l'histoire de Narcisse. Et ils n'en connaissent qu'une version qui a été trafiquée par des théologiens chrétiens du Moyen-Âge, qui est très négative. Alors, donc, ils ont dit que j'étais un narcissique. Pour moi, être narcissique, ce n'est pas un jugement qui débouche forcément sur une condamnation. Jésus nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes. Je ne crois pas être complètement idiot, je crois comprendre ce que Jésus nous dit là. Il nous dit en effet donc que nous ne pouvons pas aimer les gens plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. Paraphrasé autrement, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, de la même manière. Bon, il y a des pervers narcissiques, et bon, ça, ce sont des personnes qui sont dangereuses, parce que leur narcissisme est pervers. Mais un narcissique n'est pas forcément une personne dangereuse. Traiter quelqu'un de narcissique, c'est pas l'insulter du tout. Bon, alors, le mot narcissique... On le doit à un jeune homme nommé Narcisse. C'est une légende, c'est un mythe grec. Son histoire doit être bien comprise. Avant d'être comprise, il faut au moins qu'elle soit lue. Elle doit être comprise si on veut savoir ce que c'est qu'un narcissique, n'est-ce pas? Dans l'inconscient collectif, Narcisse, c'était donc un jeune homme vaniteux et orgueilleux, et ce jeune homme était tombé amoureux de sa propre image, et les dieux l'ont puni de s'être trop aimé. Voilà, en gros, c'est ça, c'est ce que tout le monde retient de cette histoire mythologique. Mais pourquoi un chrétien ne pourrait-il pas être amoureux de sa propre image, puisque il se sait créé à l'image de Dieu? Bon. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Narcisse, parce que bon, je suis là pour vous prêcher l'évangile, mais une petite histoire vous fera du bien quand même. Je vais vous raconter certaines choses qui vont vous aider au sujet, donc, en prenant cette histoire de Narcisse. À sa naissance, Narcisse est donc conduit, une légende, hein, il est conduit vers le devin officiel de la ville de Thèbes. Et ce devin fait une prophétie et il dit « Cet enfant vivra vieux s'il ne se connaît pas ». C'est très bizarre comme phrase, surtout quand on connaît l'histoire grecque. se devint, il avait une fille, et cette fille était prêtresse au temple de Delphes, c'était le temple le plus important. Donc, ce devin devait bien connaître les mots qui étaient gravés sur le fronton de ce temple, tout le monde pouvait le lire, c'était écrit « Connais-toi toi-même ». Après, Socrate a repris cette phrase, il en a fait toute une histoire. Bon, alors, pour que Narcisse devienne vieux, ses parents, suite à ce que ce devin a dit, ses parents ont tout fait pour qu'ils ne se connaissent pas. Ils ont commencé d'abord par enlever tous les miroirs, à l'empêcher de se rencontrer, de se voir, qu'il ne puisse jamais se voir, se connaître tel qu'il était réellement. Ok, l'enfant devient un jeune homme, et il devient extrêmement beau. C'est simple, tous ceux qui le rencontrent tombent complètement raide-mort amoureux de ce jeune homme Narcisse. Mais Narcisse, lui, ne sait pas qu'il est beau. Il ne s'est jamais vu. Il ne sait pas ce qu'il est. Quand quelqu'un tombe amoureux de lui, il ne comprend pas pourquoi. Et quand la personne lui dit « Oh Narcisse, que tu es beau », pourquoi est-ce qu'il va croire cette personne? Pourquoi lui faire confiance? Il ne sait pas, il n'en sait rien, il ne s'est jamais vu. Vous voyez ? Il n'a pas conscience donc de ce qu'il est, de son image, de ce qu'il... Il n'a pas conscience de l'amour qu'il fait naître partout où il va. Alors, il se détourne des gens, parce qu'il les prend pour des menteurs ou des flatteurs, etc. Et il les laisse malheureux parce qu'il ne les croit pas. Il y en a même qui se suicident. Tout ça, c'est dans l'histoire. Alors la légende raconte qu'un jour, ce Narcisse, en revenant de la chasse, ou je ne sais plus d'où, il a soif, il veut boire de l'eau, il se penche sur l'eau d'un lac paisible et il voit son reflet dans l'eau pour la première fois. Donc il découvre son image qui se reflète dans l'eau, mais il se demande qui est ce beau jeune homme dans l'eau. Il ne savait pas que c'était lui-même. Oui. Mais mes frères et sœurs, Narcisse est un peu comme beaucoup d'enfants de Dieu. Vous ignorez votre propre beauté. Vous ne savez pas à quel point vous êtes beau. Vous ne vous voyez jamais. Vous ne voyez jamais l'image de Dieu que vous êtes. On va y revenir. Pour le moment, on retourne de nouveau vers Narcisse. Alors, il voit son reflet. Il ne sait pas que c'est lui-même. Et quand il finit par comprendre que c'est lui-même, alors voilà la véritable légende, il atteint une forme d'extase. Elle se transforme en une extraordinaire fleur blanche au cœur d'or, la première fleur qui sort de terre chez nous en France, en Europe, un peu partout, le Narcisse. Voilà, c'est comme ça que l'histoire est racontée, c'est la vraie histoire mythologique. Relisez tout ça. C'est donc la vraie histoire. En fait, dans la mythologie grecque, Narcisse représentait la renaissance du printemps, la beauté de la nature, la vie dans toute sa beauté. Et puis, les vieux grincheux chrétiens, théologiens, n'est-ce pas, sont arrivés et ils ont tout sali, comme très souvent. Ils ont changé la fin de l'histoire, ils disent que Narcisse, il se regardait dans l'eau et il est tombé amoureux de lui-même, il s'est tellement penché qu'il est tombé dans l'eau puis s'est noyé. Voilà comment ils ont arrangé l'histoire. Et alors, en fait, voilà, les gens pensent que c'est vrai, que c'est comme ça, que c'est voilà l'histoire vraie de Narcisse. Tout le monde, presque tout le monde pense ça, à part ceux qui lisent un peu. C'est le mal d'avoir de l'amour de soi. C'est mal. C'est pas bien. C'est pas bien de s'aimer soi-même. C'est abominable, comme dirait Georges, hein, sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Georges sur YouTube. Tout est abominable pour lui. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses abominables, mais enfin bon. On ne doit pas s'aimer soi-même. C'est pas bien. On doit aimer Dieu. Moi, je me rappelle d'une chrétienne en Suisse. On l'avait été invité avec ma mère, on était jeunes chrétiens, et puis elle nous avait fait des petits pois carottes. Et je dis, ah, j'adore ça, j'adore les petits pois carottes. Et elle dit, ah non, on doit adorer que Dieu. C'est rigolo. Bien sûr, les expressions, tout ça. Mais l'idée qu'on ne doit pas s'aimer soi-même, c'est vraiment quand même très ancré dans le milieu chrétien. On ne doit aimer que Dieu. Les théologiens ont donc transformé cette belle histoire, cette belle légende, pour en arriver à nous dire que c'est mal de s'aimer soi-même. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un amour de soi qui peut être déréglé, c'est vrai. Et c'est de cet amour de soi déréglé qu'avait parlé le vieux devin à la naissance de Narcisse. Et c'est pas sain de s'enfermer dans une identité figée, je suis le plus beau, je suis la plus belle pour aller danser, je suis le plus intelligent, je suis le plus sage, tout ça c'est de l'orgueil, c'est voilà, c'est pas bien. Mais Jésus ne nous interdit pas de nous aimer nous-mêmes, il nous le recommande même. Ce que Jésus veut, c'est que nous nous connaissions nous-mêmes. Que nous sachions que nous sommes à l'image de notre Père. Ce que Jésus veut, c'est que nous acceptions, que nous nous acceptions tel que nous sommes. Il veut que nous fassions la paix avec nous-mêmes, que nous nous aimions. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas leurs prochains parce qu'à la base, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ils jugent les autres comme ils se jugent eux-mêmes. Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Aime-les. » Mais si tu ne t'aimes pas, bah, tu vas avoir de la peine à avoir aimé, tu vas avoir de la peine à aimer les autres. Quand tu lis la Bible, tu lis quoi ? Tu lis que Dieu t'aime. Dieu, attentivement, il t'aime, Dieu t'aime. Alors tu te demandes, mais pourquoi il m'aime ? Je suis qu'un chrétien minable, j'ai tout le temps des pensées mauvaises, je sais bien que je ne suis pas aimable. Et alors tu doutes, finalement, de l'amour de Dieu pour toi. Et quand il t'arrive un problème, tu penses, ouais, c'est normal, Dieu me punit, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis rien du tout, je ne suis qu'un pauvre minable. Je suis un pauvre chrétien, c'est ma faute. Attends. Si Dieu te châtie, c'est parce que, bon, premièrement, tu l'as mérité, mais c'est surtout parce qu'il t'aime. Dieu châtie ceux qu'il aime. D'accord ? Tu es aimé. Même si tu châties, tu es aimé. Et puis c'est pas, tous les problèmes qui t'arrivent, c'est pas parce que Dieu te châtie, c'est aussi les impondérables de la vie. Ça arrive à tout le monde, des problèmes, des machins. Et s'il t'aime, pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas toi-même ? Question. Si Dieu t'aime, pourquoi tu ne t'aimes pas toi ? Je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu ne connais pas tes ressources. Tu ne connais pas tes talents. Tu ne connais pas tes richesses intérieures. Tu ne connais pas ta beauté. Tu es un peu comme Narcisse. Tu ne vois pas tout ça parce que tu ne te regardes pas. Tu n'as pas appris à te regarder correctement comme Dieu te regarde. Tu es devenu une espèce d'étranger pour toi-même. Les gens qui voient quelqu'un qui se connaît lui-même, qui donc a les pieds sur terre et qui sait, qui connaît bien ce qu'il est, et qui est fier d'être ce qu'il est, eh bien, les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes portent un jugement tout de suite sur cette personne. Ils disent, oui, il est orgueilleux, il est hautain, tout, il est une assurance. Ces gens-là sont des ignorants. Mais le problème est qu'ils sont surtout ignorants de qui ils sont eux-mêmes. Et ils jugent mal les autres comme ils se jugent eux-mêmes. Mal. Mon frère, ma sœur, si tu crois ce que Jésus dit de toi, tu vas acquérir le pouvoir de t'aimer tel que tu es, et de t'ouvrir aux autres, et de recevoir, et de donner de l'amour. Tu vas devenir un Narcisse, c'est-à-dire une belle fleur du printemps, du temps de la Renaissance, où toute chose revient à la vie. Voilà ce que tu vas devenir. Mais si tu refuses d'apprendre pourquoi Dieu t'aime, si tu refuses de t'aimer toi-même, ben, tu ne pourras pas aimer les autres. Et ben, en ne t'aimant pas tel que tu es, tu vas souffrir. Tu vas finir par tomber malade. Les gens tombent. Vous savez que les gens tombent malades à cause de ce manque d'amour. Ils reprochent des tas de choses aux autres, mais ils s'en reprochent beaucoup à eux-mêmes. Très souvent en secret. Écoutez-vous. Combien de fois vous avez dit « Mais qu'est-ce que je suis bête ? Mais qu'est-ce que je suis stupide ?» Bon, il y a d'autres mots, hein, on peut dire, la plupart du temps, les gens disent « Qu'est-ce que je suis ?» Hein ? Et combien de fois vous dites « Oh, que je suis grosse, oh là là, ou qu'est-ce, oh, je suis trop mince, je suis trop maigre, ou je suis moche, je suis petit, je suis grand, j'aime pas ça. » Vous arrêtez pas de vous critiquer vous-même. Et vous critiquez les autres. C'est normal, c'est une loi infaillible. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Si quelqu'un vient me voir et qui se met à critiquer les autres, à les juger, à les condamner, la première chose que je pense, c'est que la personne qui est en face de moi ne s'aime pas elle-même. Pourquoi les gens souffrent? On voit pas tout le monde, les burn-out, les... C'est parce qu'ils sont aveugles. Ils ne savent pas se regarder comme Dieu les voit. Ils ont un mauvais regard sur eux, ou ils ne se regardent pas du tout, ils se méprisent. Ils ne savent plus écouter leur corps. Ils ne comprennent pas que leur corps et leur esprit n'arrivent plus à les suivre là-dedans. Votre corps et votre esprit crient au secours! Au secours! Donne-nous du repos! Ton corps te dit « Donne-moi du repos !» Ton esprit dit « Donne-moi du repos !» Pour trouver ce repos, il faut que tu croies ce que Jésus dit de toi. Tu es aimé. Tu es aimable. Tu es pardonné. Tu es sanctifié. Il t'a sanctifié. Ça veut dire « Il t'a mis à part ». Entre dans ce repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de ce repos. Apprends à te connaître. Tu veux connaître Dieu et tu ne te connais pas toi-même. Tu veux connaître les autres, les gens, et tu ne te connais pas toi-même. Tu veux connaître ta femme, tu ne te connais pas toi-même. Tu veux connaître ton mari, tu ne te connais pas toi-même. Alors tu critiques ton mari, tu critiques ta femme, tu critiques les autres. Mais en fait, c'est toi qui as un problème avec toi-même. Pour savoir qui tu es, lis ce que Jésus dit de toi. Tu es une créature merveilleuse. C'est écrit. C'est dans la Bible. Et si les fils de mon frère avaient lu dans la Bible que le roi David a dit « Je te loue, Éternel, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse », ils auraient certainement dit aussi que David, le roi David, était narcissique. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas une insulte, hein, de dire que je suis narcissique. Pour savoir qui tu es, lis ce que Jésus dit de toi. Tu as des talents, tu as des pouvoirs, tu as tout pleinement en lui, tu es aimé tel que tu es. Bon, Dieu s'attend à ce que tu fasses des progrès, mais en attendant, il ne t'en veut pas, il t'aime, il est patient. Tu es son fils, tu es sa fille, il ne te veut pas de mal, il ne va pas te donner des mauvaises choses quand tu lui en demandes des bonnes. Arrête de croire que tu es un pécheur, tu es pardonné. Bien sûr que tu pèches encore, moi aussi, mais on est pardonné. Mais comme tu ne t'aimes pas, parce que... Tu as une mauvaise image de toi, tu envoies une mauvaise image de toi dans tout l'univers. Et alors, personne ne voit le Seigneur en toi. On voit un vieux ronchon, une vieille ronchonne, une critiqueuse, une personne assez désagréable. Hein? Ce texte sacré est très mal compris. Je voudrais vous le lire. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais je voudrais vous le relire. C'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Je vous lis de nouveau dans la version qui s'appelle la Bible juive complète.
Verset donc Hébreux 12, 14. Recherchez le shalom avec tous. Le shalom, ça veut dire la paix. Recherchez le shalom avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment comprenez-vous ce texte? Ben, je vais vous dire comment les gens le comprennent en général. Rechercher la paix avec tous. Ils comprennent ça, oui, mais voilà, rechercher la paix avec tous, moi j'ai essayé, c'est eux qui veulent pas la paix, eux ils arrêtent pas de me faire du problème, ils sont méchants, moi je fais tout ce que je peux, je les pardonne, mais ils continuent, j'essaie d'être en paix avec eux, mais c'est impossible, ils sont insupportables, blablabla, blablabla. Bon. La deuxième partie est rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, ben oui, je cherche la sainteté, je fais tout ce que je peux. Je fais des bonnes œuvres, je me sanctifie, j'évite tel et tel péché, mais j'y arrive pas tout le temps, je pêche souvent, donc je ne verrai pas le Seigneur, puisque c'est écrit, rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc je ne verrai pas le Seigneur, en fait, j'ai bien peur d'être perdu. Mais beaucoup de chrétiens pensent comme ça. Ça, c'est la théologie des gens qui ne s'aiment pas. Ça, c'est la théologie des gens qui n'aiment pas les autres, et ça, c'est la théologie des gens qui connaissent pas Dieu. Ça, c'est la théologie des théologiens qui ont transformé l'histoire de Narcisse. Rechercher la sainteté. Oui, d'accord. Question. Rechercher la sainteté où ? Vous savez, il y avait une fois un homme, il avait perdu, il était en train de chercher... sur la place de la Concorde, la nuit, et puis quelqu'un lui dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il lui dit, ben, je cherche ma montre, j'ai perdu ma montre. Il dit, ah bon, vous êtes sûr que vous l'avez perdue là? Il dit, non, je l'ai perdue au bois de Boulogne, mais ici au moins il y a de la lumière, donc je cherche là où il y a de la lumière. Vous cherchez là où vous avez perdu. Recherchez la sainteté. Où? Ben là où elle est. Et puis elle est où, la sainteté? Elle est en vous, car vous avez été purifiés par le sang de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il vous a sanctifié, c'est-à-dire il vous a mis à part pour lui. Il vous a recréé. Vous êtes une nouvelle créature. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous le croyez, vous êtes saint, vous êtes mis à part pour Dieu réellement. Mais vous l'êtes, mais vous ne le savez pas. Vous êtes comme Narcisse qui ne s'est jamais vu dans un miroir. Et lorsque vous avez recherché cette sainteté offerte gratuitement à chacun, que vous l'avez reçue, que vous croyez que vous l'avez, alors les gens se mettent à voir Jésus en vous. Parce que sans cette sainteté-là en vous, personne ne peut voir Jésus en vous. C'est ça ce que ce texte veut dire. Recherchez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur en vous tant que vous ne croyez pas que vous êtes ce que Jésus dit, que vous êtes quelqu'un d'aimé et quelqu'un de sanctifié, quelqu'un de beau. C'est clair? Alors de grâce, croyez que vous êtes aimé, aimez-vous, aimez les autres. Vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres de sanctification, vous êtes sauvé par Jésus, le Sauveur, et c'est un cadeau. Et tout ce que vous pourriez rajouter pour être sauvé, c'est une idiotie. On ne peut rien rajouter. Jésus a accompli une œuvre parfaite. Il vous a sauvé, vous êtes sauvé. Et toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire ne servent pas à votre salut. Elles servent simplement pour vos récompenses plus tard. Croyez ce que Jésus dit. Croyez que vous êtes saint, mis à part par Dieu et pour Dieu. Commencez à vous aimer vous-même. Et puis, vous pourrez donc aimer les autres. Et tous verront Jésus en vous parce que vous les aimerez. Voilà ce que ça signifie, ce texte. Nul ne verra le Seigneur, ça ne veut pas dire si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Ça veut dire que si vous n'êtes pas saint, si vous ne recherchez pas la sainteté où elle est, c'est-à-dire en vous offerte gratuitement par Jésus, si vous ne cherchez pas cette sainteté-là, personne ne verra Jésus en vous. Ce qu'ils verront, c'est un vieux cornichon aigri. jugeurs, critiqueurs. Vous voyez ? Si ce texte signifie autre chose que ce que je viens de vous dire, c'est que Paul se contredit. C'est que Paul contredit Jésus. Nous sommes sauvés par grâce et pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous êtes sauvés par amour. Si Dieu vous aime, aimez-vous aussi et aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Croyez, mais s'il vous plaît, croyez intelligemment. Parce que la foi stupide, mes frères et sœurs, ne peut que déplaire à Dieu. Aimez Dieu, aimez-vous vous-même, aimez les gens, aimez vos ennemis, aimez les animaux, aimez la nature. Aimez, il n'y a que ça de vrai. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse maintenant. Je crois que vous avez bien compris et que vous allez réajuster les choses et vous aimer afin de pouvoir aimer les autres et ainsi glorifier Dieu en montrant Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci de nous avoir tant aimés, d'avoir donné ta vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions l'apprendre encore 2000 ans après en lisant ce livre saint. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Seigneur Jésus, merci d'aider mon frère, ma sœur qui écoute ce message à commencer à se regarder lui-même, elle-même, tel que toi tu la vois, non pas avec un esprit de condamnation, mais avec un esprit de miséricorde, de bonté, d'amour. Merci Jésus. Amen. Au revoir, à bientôt.